Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mardi 15 juin, Kylian Mbappé donne le ton.
On a faim, on veut gagner.
Et nous aussi, on a envie de les voir gagner pour ce France-Allemagne digne d'une finale. Cette fois, la peur a changé de camp. Nous écouterons un ancien, Marius Trésor, nous livrer son analyse et ses conseils. Il sera l'invité de ce journal. La vaccination ouverte aux adolescents à partir de 12 ans depuis ce matin. Beaucoup de rendez-vous sont déjà pris. Dans RTL Midi aussi, pas un mot de regret ni de remords dans la bouche de l'accusé Bruno Garcia Cruciani, jugé à Bastia pour avoir tué son ex-compagne, a été entendu pendant près de 2h30 ce matin. 1 million d'euros d'amende et des peines de prison avec sursis contre Ikea et ses anciens PDG. Ils étaient poursuivis pour avoir espionné leurs salariés. Et puis le coup de cœur d'RTL Midi nous emmènera retrouver un artiste éphémère. Il dessine d'immenses portraits de stars dans le sable, entre deux marées. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
Toujours en mode plage, un peu parasol et lunettes de soleil.
Et on aime ça, on va pas s'en plaindre. C'est plein soleil quasiment partout. Alors je dis quasiment parce qu'il y a quelques petits nuages sur le nord Pas-de-Calais. Ça tourne à l'orage comme hier en montagne sur les Alpes et les Pyrénées cet après-midi. Une petite averse possible à aller sur le relief Corse et les Cévennes. Et sinon, du grand beau partout. Côté température, il fait encore très chaud. 35 cet après-midi à Perpignan, Nîmes, Bordeaux. 33 à Montauban, Lyon. 31 à Paris et au Mans. C'est plus tempéré près de la Manche avec 22 à Cherbourg.
La question du jour sur RTL.fr, la France va-t-elle battre l'Allemagne? Eh bien, vous êtes 8% à dire oui et il y a 66% de non. C'est un petit peu étonnant quand même ce résultat au 32-10. Bonjour
Pascal. C'est drôle, mais bonjour Christelle, mais ça veut dire effectivement que les Français ont un rapport avec l'Allemagne où ils pensent toujours qu'ils sont moins forts et qu'ils seront en difficulté ce soir. Autre question sur cette rencontre, c'est soutenez-vous l'intention des Bleus de mettre un genou à terre ce soir avant le match de l'Euro contre l'Allemagne? C'est vrai que sur Twitter, le hashtag boycott équipe de France est en top tweet. C'est un sujet qui est très commenté. Vous allez pouvoir nous donner votre avis. Vos adolescents vont-ils se faire vacciner contre la Covid-19? C'est possible dès aujourd'hui pour les ados de 12 à 17 ans. Et puis, pour l'élu écologiste de Paris, Alice Coffin, il faut compter le nombre de femmes dans les spectacles pour distribuer les subventions culturelles. Et bien là aussi, vous pourrez nous donner votre avis, mais on parlera essentiellement, je pense, de football.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Chaud devant, la température va monter, pas seulement à Munich où il fera 22 degrés au coup d'envoi de France-Allemagne ce soir dans le cadre de l'Euro. Ici aussi, l'ambiance monte, d'autant que le ministère de l'Intérieur a promis de faire preuve de tolérance dans l'application du couvre-feu à partir de 23h. En tout cas, à Metz, au bar brasserie Le Jam, on est prêt à vibrer, Dimitri Ramelot.
Oui, et dès l'ouverture ce matin, direction la cave pour Mélanie, la patronne.
Ah voilà, elle est là, la déco. Alors, on a les colliers fleuris, des drapeaux, des ballons à gonfler. C'est le E de France.
Et la déco sera installée au dernier moment par l'équipe au complet de 5 personnes.
On a un espace bar où il y aura un écran de diffusion et on a aussi un espace brasserie où il y a un écran géant avec une diffusion rétroprojecteur. On peut recevoir environ 80 personnes à l'intérieur et sur la terrasse une quarantaine de personnes. On a encore un petit peu de place. Il faut faire vite, très vite.
Pas de temps à perdre ce matin. Objectif, l'enregistrement des réservations et le plan des salles et de la cour intérieure. 6 par table maximum et tout le monde assis.
Et 3 dames qu'il faudra mettre à l'ombre et Guillaume une table de 3.
Opération épluchage des pommes de terre en cuisine pour Arnaud, le mari de Mélanie.
Ça fait super du bien de revoir nos clients, en plus ça c'est le top du top. Je suis heureux comme tout et c'est le premier événement que je vais faire, ouais, là. Grande journée, ouais, c'est l'équipe de France en plus, donc on espère qu'on va gagner.
Et ce bar brasserie diffusera tous les matchs des Bleus ainsi que les grandes affiches jusqu'à la fin de la compétition.
Reportage Dimitri Ramelot. France-Allemagne, c'est une affiche de finale. Et pourtant, ce n'est qu'un début dans cet Euro. Les deux derniers champions du monde se retrouvent face à face à Munich. Mais la peur a changé de camp. L'Allemagne n'a pas battu la France depuis 2014. Et Mbappé est plus que motivé, comme il le confiait ce matin sur RTL et M6.
On a faim, on veut gagner. On a l'impression que, voilà, on est dans un moment où on peut vraiment faire des belles choses. On le sent, tout le monde le sent. Maintenant, voilà, il faut garder cette envie. On veut laisser notre nom dans l'histoire de la France. Même si, bon, faire Coupe du Monde d'Euro, ça a déjà été fait dans notre pays. Mais voilà, ça passe par là. Essayer de gagner l'Euro, c'est ça. Ça commence comme ça et on est affamé, bien sûr.
Bon, en tout cas, c'est maintenant, Philippe Sansfourche, qu'on va savoir ce qu'ils ont vraiment dans les jambes, nos Bleus. Est-ce que Philippe m'entend ? Ah, voilà, Philippe est en direct et on l'a un petit peu perdu. Mais on le retrouvera dans un petit instant. Les Bleus, on en parlait tout à l'heure, ont l'intention de mettre le genou à terre avant le début du match en signe de protestation contre les discriminations, comme ils l'avaient fait contre le Pays de Galles. Le candidat RN Thierry Mariani dénonce une opération importée des États-Unis. La ministre Roxana Mara Sineanu souligne que le gouvernement vient d'inscrire dans la loi pour les principes de la République l'engagement du monde sportif pour lutter contre le fléau du racisme. Et elle ajoute, on a besoin de cet engagement. On a retrouvé Philippe Sanfourche. Vous êtes bien là, Philippe ?
Oui, tout à fait. Voilà. Avec plaisir.
Bonjour cette fois. C'est un peu le moment de vérité là ce soir.
Oui, c'est le moment de vérité un petit peu pour les deux sélections hein, qui ont joué des matchs amicaux très abordables en préparation. Difficile donc de savoir par exemple ce que vaut vraiment à très haut niveau l'association Griezmann, Mbappé, Benzema. C'est un premier révélateur pour les Bleus qui par le passé ont souvent débuté un petit peu en mode diesel les tournois internationaux. Premier révélateur par extension pour Didier Deschamps, le sélectionneur, qui a pris des risques hein, en bousculant ses équilibres avec le retour de Benzema. On se souvient qu'en 2018, par exemple, l'équipe avait été remaniée entre le premier et le deuxième match face à l'Australie et au Pérou. Là, il ne sera pas question de tâtonner puisque c'est l'Allemagne en face, qui plus est, chez elle à Munich.
Philippe Sanfourche, en direct de Munich pour RTL. Merci Philippe. La France va-t-elle battre l'Allemagne ? C'est la question toute simple que l'on vous pose sur RTL.fr. On vous attend au petit jeu des pronostics, Pascal Praud.
La France est championne du monde. La France est vice-championne d'Europe. La France n'a plus perdu contre l'Allemagne depuis 2014. La France a Mbappé, la France a Karim Benzema, la France a Griezmann, la France a Deschamps, Saint Deschamps. Bon, avec qui rien ne peut arriver. Donc effectivement, la France est largement favorite. Mais la France joue en Allemagne ce soir. Et deuxième chose, c'est le premier match. Donc si je voulais faire un pronostic, je pourrais imaginer que les deux équipes sont capables de se neutraliser. Et je pourrais imaginer un match nul, un but partout. Voilà ce que je vous propose.
Un but partout, d'accord. Eh bien, on va voir ce qu'en pense Marius Trésor. Bonjour.
Bonjour.
Ancien joueur mythique de l'équipe de France qui a vécu un certain France-Allemagne à Séville en 1982. Est-ce que vous aussi, vous êtes plutôt optimiste pour ce soir comme Pascal ?
Ben, je dirais simplement que la France est championne du monde en titre. C'est l'Euro, elle était finaliste de cet Euro aussi. Je pense que la pression est beaucoup plus sur les Allemands que sur l'équipe de France. Mm-hmm. On a une équipe bien structurée avec Deschamps à la tête de cette équipe qui s'est trouvé les solutions. Donc je pense que l'équipe de France va faire un bon match contre les Allemands.
Ben, on a vu effectivement les Bleus très à l'aise lors des deux matchs préparatoires, mais on ne sait pas vraiment ce qu'ils valent en défense. Qu'en dit l'ancien défenseur que vous êtes ?
Ah, mais pour l'instant, sur les deux matchs que j'ai vus, je n'ai pas tellement vu la défense française en difficulté. On a un axe central avec... comme chef Varane, donc pour moi ça doit supporter les attaques allemandes.
Oui, Pascal.
Ce qui est frappant à comparer les deux sélections à 40 ans d'écart, c'est qu'il y avait une très grande qualité technique dans l'équipe de Marius Trésor, qu'incarne Marius Trésor, mais avec des gens comme Platini, comme Giresse, etc. Mais ce qui vous manquait, c'est peut-être l'esprit guerrier. Ce qui est incroyable dans l'équipe de France aujourd'hui, qui n'est pas nouveau d'ailleurs, c'est cet esprit de guerrier avec des générations de jeunes joueurs qui ne doutent pas et qui sont affamés sur le terrain. Toute la France, toute la mentalité française a changé de ce point de vue-là en 40 ans, Marius.
Oui, c'est vrai, mais je dirais simplement que l'équipe actuelle, avec les performances qu'elle fait, elle a appris de ses prédécesseurs. Je dirais en 98, on a été championne du monde. Pourquoi ? Parce que les joueurs ne voulaient pas connaître la même chose que l'équipe de 82. En plus, ça se passait en France. Donc, ça a été le début. Après, 20 ans après, on est encore championne du monde. J'espère que la troisième étoile n'attendra pas aussi longtemps, mais j'ai confiance en cette équipe de France qui est capable de renverser n'importe quel adversaire.
Donc les Bleus ont les moyens de gagner cet Euro, d'après vous ?
Ah oui, oui, on était finaliste il y a 4 ans, et en plus ça se passait chez nous. Mais je pense que là, les garçons ont soif de revanche. En plus, ils sont dans une poule assez difficile avec
oui,
l'Allemagne, avec le Portugal et la Hongrie.
Oui.
Donc il faut bien débuter cet euro, donc je leur fais confiance.
Rapidement, un pronostic pour ce soir, désolé, mais c'est le jeu. Hein.
C'est France-Allemagne ou Allemagne-France ?
C'est France-Allemagne, mais à Munich.
Donc 2-0 pour la France.
Ah, 2-0 pour la France, encore plus fort que Pascal. Merci beaucoup, merci Marius Trésor, et merci aussi à notre correspondant Denis Grandjou pour avoir assuré cette liaison. Je rappelle que vous publiez ensemble un livre, Au-delà de mes rêves, qui raconte votre histoire, publié chez City Edition. Merci beaucoup. France-Allemagne.
Merci à vous.
À bientôt. France-Allemagne, rendez-vous donc dans notre RTL Foot spécial entre 20h45 et minuit et sur M6 à partir de 21h. Des nouvelles du Danois Christian Eriksen, victime d'un arrêt cardiaque durant le match contre la Finlande samedi. Il dit aller bien, malgré les circonstances. Il doit encore faire des examens. Il publie une photo de lui sur Instagram, souriant, le pouce en l'air sur son lit d'hôpital et promet de soutenir son équipe. Dans un instant, le reste de l'actualité et la vaccination ouverte aux adolescents.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Christelle Rebière.
Et maintenant, les adolescents qui représentent potentiellement 5 millions de personnes. La vaccination s'est ouverte ce matin aux 12-17 ans. C'est une nouvelle étape. Et vous avez suivi Yannick Collant à la clinique Sainte-Barbe à Strasbourg. Deux copines, Marion et Mila, 12 ans, vaccinées dès 8 heures ce matin.
Oui, elles voulaient être les premières pour montrer l'exemple. Caroline, la maman de Marion, a dû se dépêcher de trouver un rendez-vous.
C'était important pour ma fille, comme elle me tannait depuis un petit moment, et que j'ai eu la possibilité d'avoir un créneau rapidement. Du coup, ben voilà, on en a profité.
Direction la salle de vaccination où attend Stéphanie, l'infirmière.
Est-ce que tu es toujours d'accord pour te faire vacciner ?
Oui.
Ok, c'est bon. Il y a les signatures des deux parents. C'est primordial d'avoir le consentement des deux parents, mais également du mineur, parce que c'est lui qui reçoit l'injection. On vaccine quel bras ?
Le gauche.
Ok, j'y vais. Ça va ?
Oui, ça va.
Voilà.
Merci beaucoup.
De rien.
Bah, c'est bien passé, ça fait un peu mal sur le coup, mais après ça passe. C'est important de protéger tout le monde et j'aimerais encourager tous les jeunes à se faire vacciner.
Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Mila de ressortir un petit pansement sur l'épaule.
Oui, je suis soulagée parce que moi je me dis que ça m'enlève un poids. Pour les autres, au moins ça les protège, je peux pas leur donner le virus.
Dernière formalité pour ces adolescentes, la photo avec le V de la victoire devant le centre de vaccination pour partager sur les réseaux sociaux avec leurs copains du collège.
Yannick Collant, et d'après la plateforme Doctolib qui gère les rendez-vous, entre 30 000 et 40 000 mineurs auront été vaccinés d'ici ce soir. Son audition a duré près de 2h30 ce matin. L'ancien compagnon de Julie Douib, jugé pour son assassinat devant les assises de la Haute-Corse, continue de nier toute préméditation. Certes, il était armé lorsqu'il s'est rendu chez elle, mais il persiste à dire que c'était un accident. Et dans sa bouche, Anne Le Hénaff, aucun mot de regret.
Mes excuses et mes regrets, je les garde pour mes enfants, répète l'accusé. T-shirt et masque noir, debout, les mains dans le dos. Vos enfants ont perdu leur mère, mais dans la salle, il y a les Douib qui ont perdu leur fille, leur sœur. Vous avez quelque chose à leur dire, demande une juge. Non, je n'ai rien à leur dire, lâche-t-il sans un regard. Ça fait 2 ans et 2 mois que je n'ai pas vu mes enfants, je ne peux pas. Ces enfants, dit-il, sont bloqués là-haut, chez leurs grands-parents, isolés. Je vais tout faire pour les récupérer, je vais lancer une procédure. Je leur ai enlevé leur mère, ma priorité maintenant, c'est de ne pas tout leur enlever. Sur le fond, malgré tous les témoins, il persiste. Jamais j'ai voulu la tuer. Vous avez tiré la veille dans votre jardin ? Non, il n'y a jamais eu de menace de mort. Je ne la traquais pas, je ne lui ai jamais mis de gifle ou de coup de poing. C'est vrai que c'était très conflictuel, mais bon. L'avocate générale mitraille. Vos enfants, c'est quand même des violences qu'ils ont entendues. Oui, des violences qu'ils ont vues. Encore un oui, un peu plus faible. Et c'est le sang de leur mère qu'ils voient sur votre pantalon. L'accusé ne répond pas. L'avocate générale se rassoit dans un silence total.
Récit d'audience Anne Le Hénaff au palais de justice de Bastia pour RTL. IKEA, condamné à 1 million d'euros d'amende pour avoir espionné plusieurs centaines de salariés entre 2009 et 2012. Le tribunal correctionnel de Versailles a rendu son jugement ce matin. La filiale française du géant suédois est reconnue coupable et l'un de ses anciens PDG est même condamné à de la prison avec sursis. L'un des plaignants, un ancien salarié qui avait été licencié, Adèle Amara, salue cette décision.
Je suis content parce que la justice nous a entendus. C'est vrai qu'un 1 million d'euros pour IKEA, c'est pas beaucoup, mais il faut voir la condamnation. C'est symbolique. En France, c'est rare que des grosses entreprises se font condamner comme ça. Alors moi, où je suis content aujourd'hui, c'est que je peux tourner la page et surtout raconter à mes enfants la fin de l'histoire qui se termine bien. Que des voyous se retrouvent condamnés. J'ai été la cible directe, j'ai été très malmené par IKEA. Pendant plusieurs années, IKEA m'a traîné dans la boue. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la justice m'a donné le médicament pour guérir de tout ça. C'est un début et ça montre aux autres patrons qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi en France.
L'un des plaignants au micro RTL d'Alice Moreno. Dans un instant, les magnifiques plages de Porto Vecchio fermées pour risque de pollution.
RTL Midi. Avec Christelle Rebière.
La saison commence en Corse où l'on surveille de très près la nappe d'hydrocarbures qui évolue à l'est de l'île. Ce matin, les plages de Porto Vecchio ont dû être fermées par précaution. Une nappe de 1 km sur 100 mètres avait été repérée au large du golfe. Les explications de François Chazou, directeur du cabinet de la préfecture de Corse du Sud.
C'est une masse huileuse dans laquelle vous avez des petites boulettes d'hydrocarbures plus tout le reste des déchets que vous pouvez trouver en mer. Donc, c'est-à-dire des déchets plastiques, du pollen aussi qui se dépose dessus, des déchets de bois, etc. Donc tout ça, c'était un peu aggloméré. Et c'est cette plaque-là qui a été traitée hier soir et que ce matin, nous ne retrouvons pas reconnaissant. Donc c'est plutôt un bon signe. Ça prouve que l'action d'hier soir a été efficace. Puis après, on a des arrivées sporadiques. En fait, de ce qui reste, c'est des micro-boulettes d'hydrocarbures de 1 cm, voire moins de diamètre, qui effectivement viennent s'échouer sur les plages. Donc on n'est pas sur une pollution importante. Simplement, évidemment, ça reste des déchets d'hydrocarbures qu'il faut nettoyer. Mais ça nécessite des moyens limités. C'est moins d'une dizaine de personnes par plage pour récupérer ces déchets et puis après les évacuer.
François Chazot avec Mourad Djabari. À l'autre bout de la France, le ton monte du côté de Saint-Brieuc autour de la construction d'un parc éolien déjà très controversé. Un navire de forage qui entame les travaux serait à l'origine d'une pollution significative, une fuite d'huile. Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, a convoqué les responsables du groupe espagnol Iberdrola qui mène les travaux. La radioactivité n'est pas anormale en Chine autour de la centrale nucléaire de Taishan. C'est ce qu'affirment les autorités chinoises. Elle a dû être placée sous surveillance pour un problème d'étanchéité au cœur d'un réacteur, mais d'après EDF et l'opérateur chinois, les rejets de gaz dans l'air sont dans les limites autorisées. La laïcité à l'école, comment former le monde enseignant et les personnels? La question s'était cruellement posée après l'assassinat terroriste de Samuel Paty. Quel socle commun, pour quelles valeurs? Le ministère de l'Éducation nationale prévoit un plan sur 4 ans qui va démarrer dès le mois de septembre, Marie Guerrier.
Oui, avec d'abord la formation de 1000 formateurs. Ils viendront de toutes les académies, tous les départements, pour acquérir de manière renforcée et intensive des connaissances et des compétences sur la laïcité et les valeurs de la République. Ensuite, ce réseau de formateurs ira essaimer sur le terrain. Il s'agira pour eux, sur 4 ans, de former tous les enseignants dans les écoles, collèges et lycées, mais aussi les surveillants, on dit les assistants d'éducation, les CPE, les conseillers principaux d'éducation, et puis les personnels de direction. Un référent laïcité devra être désigné dans chaque établissement scolaire. L'idée, c'est que tous, à la fin, possèdent le même référentiel pour défendre et transmettre les valeurs de la République, en finir avec la laïcité à géométrie variable ou l'autocensure. On voit bien qu'aujourd'hui, chacun fait comme il peut. Donc ça, c'est pour la formation continue, hein, quand les enseignants sont déjà en poste. Mais il y aura aussi des dispositions spécifiques pour la formation initiale, au moment où les futurs enseignants préparent les concours de l'éducation nationale. Et désormais, les épreuves d'admission porteront notamment sur toutes ces questions.
RTL. Le coup de cœur de nos correspondants.
Et nous partons ce midi sur le littoral atlantique retrouver un artiste qui crée des œuvres éphémères. Philippe Cadorel dessine d'immenses portraits de stars, parfois ce sont des footballeurs, sur le sable des plages, tout simplement avec un râteau. Le temps d'une marée, Patrice Gabart.
Comme la marée était haute hier après-midi sur le littoral, c'est dans son atelier d'artisan peintre que je retrouve le beach artiste, c'est le nom de la discipline.
C'est-à-dire le principe, c'est on a un râteau, on ratisse le sable, et quand le soleil est bas, on voit bien les ombres. C'est là qu'on voit le mieux le dessin, quoi. Donc j'ai fait Maradona, j'ai fait Didier Drogba, Henri Michel pour le FC Nantes, j'ai fait Fabrice Lucchini à l'île de Ré.
Alors comment on dessine sur le sable?
On dessine entre les marées, donc 5h30 à peu près, pour faire un dessin de 100 mètres par 60 mètres par exemple. Je vais apprendre le dessin avant, et puis il y a les méthodes du quadrillage. C'est-à-dire on fait des carrés de 5 mètres par 5 mètres. mètres, un damier. Moi, je trace, je fais tous les contours et j'ai des partenaires avec moi qui viennent avec un râteau. Je leur dis, tiens, cette zone-là, faut la faire. Et moi, je me garde les yeux, la bouche, je me garde le visage parce que c'est la partie la plus technique.
À chaque commande de portrait, Frédéric Cadorel reverse une partie de ses gains à l'association La Lumière pour tous de l'ancien meneur de jeu du FC Nantes, Japhet Endoran.
On emmène des enfants malades pour leur changer les idées ou les parents à des matchs de foot, à rencontrer des joueurs professionnels ou aussi des acteurs.
La dernière réalisation de Endo, son nom d'artiste, un portrait très impressionnant de Thomas Pesquet sur une plage du Mont-Saint-Michel. En projet, le soldat Ryan à Omaha Beach et en cas de victoire de l'équipe de France à l'Euro, ce sera le portrait de Didier Deschamps sur une plage de Concarneau.
Voilà. Et de toute façon, ce sera très poétique. N'est-ce pas, Pascal, vous aussi, vous aimez ça, ces portraits
sur le
sable.
Ah, c'est très beau. C'est très beau, effectivement. Alors, j'aurais aimé vous parler que de football et de joie de reprendre la compétition, de parler de Griezmann.
Ah ben, on va en parler quand même, on va pas bouder notre plaisir.
Mais j'espère, mais Laurent Tessier m'avertit qu'il y a un vent de fronde au Standard avec beaucoup de témoignages de gens qui veulent intervenir sur le genou à terre de l'équipe de France. Donc j'espère que ça ne prendra pas le pas sur ce que doit être ce match et sur l'enthousiasme, je le répète, qu'on a retrouvé cette équipe de France. On sera d'ailleurs avec Alexis Menuge également en direct d'Allemagne, mais nous allons parler beaucoup forcément du retour de l'équipe de France dans la compétition.
A tout à l'heure, Pascal. La météo, Peggy Broche, votre carte est presque parfaite.
Et oui, Christelle, avec un magnifique ciel bleu sur l'ensemble du pays. Allez, petit bémol sur le Nord-Pas-de-Calais avec 2-3 nuages qui vont se former au sud de la Garonne également pour cet après-midi, mais ça ne gâchera pas l'impression de beau temps, ne vous inquiétez pas. Il n'y a qu'en montagne où ça devient instable, comme les jours précédents, avec un coup de tonnerre sur les Pyrénées, les Alpes, une petite averse également sur le relief corse, tout ça sous des températures extrêmement élevées. 36 attendus cet après-midi à Avignon, 35 à Perpignan, 34 à Toulouse, Cognac, Grenoble, 32 à Marseille et Bourges, 31 degrés à Paris, Nancy et Tours, 30 à Tarbes comme à Reims, 26 à Nice, 24 à Brest et 21 au Havre.
Et demain, encore plus de chaleur, mais surtout dans la partie nord du pays.
Exactement. Les 34-35 degrés qu'il y a dans le sud vont remonter.
On va les retrouver demain.
Oui. Exactement. Et ça va concerner de nombreuses villes. Ça va même grimper jusqu'à 36 degrés à Bourges, à Auch, 35 à Paris, Orléans, à Lyon, Clermont-Ferrand, 34 à Bordeaux, Montélimar et Strasbourg, 33 degrés à Nantes et Reims, 26 à Nice et 24 à Cherbourg. Tout ça fait que je m'envole aussi au niveau des températures côté ciel. Il fera encore très beau. Un peu plus de nuages le matin sur la façade atlantique. Et dans l'après-midi, des averses orageuses localisées, mais qui vont concerner l'ouest du pays, qui seront plus marquées entre la Bretagne et la Normandie. Et puis toujours cette instabilité orageuse en montagne sur les Alpes et la Corse. Et sur toute la moitié est, il fera encore très très beau.
Merci Peggy, on va en profiter. À suivre, le rappel des titres, ce sera à vous au 32-10.
RTL. Il est pile 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Signe des temps, on voulait vraiment parler football. Et les premiers appels ne parlent que de ce genou à terre qui sera un signe ce soir pour les joueurs de l'équipe de France de lutter contre le racisme. Nous sommes avec Bernard. Bonjour Bernard, vous habitez dans les Alpes de Haute-Provence.
C'est cela, bonjour Pascal.
Et vous êtes favorable à ce geste ou au contraire vous le regrettez?
Voilà, je le regrette parce que je le trouve inapproprié et par certains côtés même indécent. Voilà.
Bon, bah vous allez nous expliquer pourquoi. Christelle Rebière, le rappel des titres.
France-Allemagne, ce soir à Munich, une affiche de rêve pour l'entrée des Bleus dans l'Euro. Les champions du monde 2018 se retrouvent face aux champions du monde 2014. Les premiers supporters français sont arrivés en Allemagne et chauffent un peu l'ambiance sur place, Julien Vautrat.
Oui, Christelle, ils ont commencé à réchauffer les rues de Munich. Ils viennent de partout, des Yvelines, du Pas-de-Calais, des Vosges. Deux cars arrivés ce matin et 12 heures de transport cette nuit pour les irrésistibles.
Ah bah, on revit quoi. Au bout d'un an et demi, c'était une grosse frustration. En plus, on retrouve les potes avec qui on se voit régulièrement. Donc c'est génial. Vive la France, vive le foot et vive l'Euro.
C'est le retour à la vie quoi. En gros, c'est quelque chose qu'on a attendu. Ça fait un an et demi qu'on est. Un an et demi qu'on est sevré, un an et demi qu'on attend ça. Et bon, maintenant, c'est que du bonheur, c'est le retour à la joie, le retour. Revoir les amis, reprendre goût à la vie, c'est un petit bout de vie qui reprend.
On a tous les ingrédients, après c'est à nous de faire notre boulot en tant que supporter, en tant que famille, hein, parce que nous on est vraiment une famille et aux joueurs de faire un boulot sur le terrain, mais ça va être bien.
Garde un peu de voix pour ce soir quand même, hein. Julien Vautrat et les supporters que vous entendez derrière lui en direct de Munich. La vaccination ouverte aux adolescents depuis ce matin, c'est-à-dire aux 12-17 ans, avec l'accord des deux parents, ça représente 5 millions de personnes. Nicolas Sarkozy attendu au palais de justice de Paris dans une demi-heure. L'ancien président doit être interrogé sur les dépenses excessives de sa campagne électorale en 2012. Il est poursuivi pour financement illégal. Les anciens cadres de Big Malion et de l'UMP sont poursuivis, eux, pour escroquerie et usage de faux. IKEA France, condamné à 1 million d'euros d'amende par le tribunal correctionnel de Versailles. L'un de ses anciens PDG a de la prison avec sursis pour avoir espionné des centaines de salariés pendant plusieurs années. Mais les peines sont moins lourdes que les réquisitions de la procureure.